Salut et bienvenue dans Ici Montferrand, un nouvel épisode, une nouvelle année bien sûr pour les Clermontois. Je dis une nouvelle année mais pour tout le monde, pour moi surtout, puisque vous avez déjà commencé cette année depuis longtemps. Vous êtes lancés comme des frelons, pas tout à fait comme l'ASM qui coince régulièrement comme dans les 5 dernières minutes. Vous vous souvenez des 5 dernières minutes, Raymond Souplex?
C'est bien sûr.
Entre nous. Alors, juste rappel le concept pour les plus jeunes. En fait, Raymond Souplex mettait à peu près plus d'une heure pour faire fructifier le fruit de son enquête dans les 5 dernières minutes et y trouver la solution. Et bien, l'ASM, c'est l'inverse. À peu près tout une heure pour perdre tout ce que tu as mis en place.
C'est un peu ça, oui. Mais à part moi autour de la table, je vois pas qui peut.
On était jeunes, on a connu.
Moi je me rappelle.
On a regardé les enfants de la télé hein, quand même.
Ah, d'accord, vous avez eu des best-of, des rétrospectives, je comprends mieux.
Il n'empêche que il doit bien avoir une raison quand même pour laquelle tu fais. Arnaud, tu as écrit cet article et Clermont serait deuxième du classement s'il n'y avait pas ces deux dernières minutes, c'est ça? Parce que j'ai dit cinq dernières minutes, c'est un symbole.
Non, c'est deux.
La vérité, c'est deux, c'est ça?
C'est deux, effectivement, c'est deux. Sur 12 journées, la SM. A encaissé 6 fois, 6 reprises quand même, c'est la moitié des matchs, ouais. À 6 reprises des essais après la 78e minute, c'est assez énorme. Donc j'ai fait le calcul sur les points comptablement au classement, ils ont perdu 8 points dans les 2 dernières minutes. Donc avec ce qu'ont gagné les adversaires et ce qu'a perdu l'ASM, l'ASM effectivement serait deuxième du championnat sans ces dernières minutes.
Incroyable. Messieurs, juste de faire un premier tour de table, la question est pourquoi l'ASM coince dans les dernières minutes? Mais ma première question et premier tour de table, c'est est-ce que pour vous c'est anecdotique ce que vient de dire Arnaud ou est-ce qu'au contraire ça témoigne de quelque chose? Oui, non?
Ah, c'est pas anecdotique, non,
Christophe.
Non, c'est révélateur de certaines choses, oui.
Bah, évidemment, ça veut dire quelque chose. On en prépare un podcast.
Déjà. Merci pour la question.
Il n'y aurait pas de débat.
Ok, merci. Arnaud, pourquoi pour toi ça coince? Donne-nous un premier argument.
Alors pourquoi ça coince? Moi, à mon avis, c'est les manques de profondeur sur le banc de touche. L'ASM, je ne sais pas si vous avez regardé le documentaire de Canal Plus sur l'ASM. Il y a Christophe qui dit serait temps, Christophe Furios, qui dit serait temps de rentrer des grands joueurs à l'ASM en parlant d'une époque où il y avait deux super joueurs à chaque poste. Bah, c'est ce qui manque à mon avis à l'ASM quand il y a un 15 titulaire fort. Sur le banc, ça manque un peu de profondeur. Et on l'a vu notamment là sur les joueurs qui sont rentrés même tardivement. Ils sont rentrés à partir de la 70e minute pour certains. On l'a vu, c'est ces joueurs-là qui ont commencé à faire des bêtises et qui ont fait perdre le fil de la rencontre. À l'ASM, je parle de cet en avant de Berregaï. Alors c'est en avant de Berregaï, mais pour moi, à mon avis, c'est Jules Plisson qui devait plus s'engager pour aller cueillir le ballon.
Il y a une mésentente entre les deux,
mais c'était Jules Plisson qui était face au jeu et qui, à mon avis, s'est pas assez engagé. Donc ça fait en avant pour le Stade français. Et on l'a vu sur la mêlée, la première ligne qui est rentrée en jeu s'est totalement fait plier par celle du Stade français. La mêlée du Stade parisienne était déjà très dominatrice dans le match, mais là, ça n'a pas fait un pli.
Donc, je rappelle juste pardon, que l'ASM a fait 14 partout au Stade français.
Exactement.
Un match nul et que l'essai encaissé, effectivement, était à la 80e, alors que voilà. Les Clermontois menaient de cette part.
Ça fait pénalité sur la mêlée. Le jeu revient dans les 22 Clermontois. Pénal touche. Voilà.
Et c'est Élise Deder. Christophe, ouais.
Oui, juste un petit bémol. Je trouve que c'est un peu sévère le jugement sur la mêlée clermontoise. Très dominatrice Paris, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a eu deux pénalités contre Slimani sur des fautes techniques très 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 pointues. Enfin bon, il amène son vis-à-vis au sol première.
Pour le coup, il a été sanctionné plusieurs fois. Quoi.
Il a été deux fois. Ouais. Après, je ne dirais pas que Paris a dominé. Non, ça s'est plutôt équilibré. Mais sur la dernière mêlée, oui, parce que c'est une première ligne. Alors je mettrai aussi un autre bémol par rapport à ce que dit Arnaud. C'est pas que ces arguments ne me vont pas. Mais je vais prendre un contre-exemple, hein, c'est le match Bordeaux avec Simons et Fainga sur le banc qui rentrent en fin de match et ça n'a pas fait mieux. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a un manque de profondeur, c'est évident, mais des fois le banc de touche est plus costaud que ce qu'il n'était peut-être aussi à Paris. Voilà, c'était juste une parenthèse.
Autre argument là.
Moi, mon argument, pour moi, c'est essentiellement une absence de joueurs, des leaders, mais des vrais, des cadres, des leaders, des chefs, des mecs qui sont là, en disant, voilà, et les gars, il reste 5 minutes là, il n'est plus question de déconner, on serre les boulons, c'est élevé à ce moment-là le degré de vigilance de tout le monde. Et là, j'ai l'impression que dans cette équipe, il manque ce genre de joueurs. ça peut venir du banc, mais le banc, ça, c'est, voilà, c'est dans un stade, il y a 15 000 personnes. Enfin, c'est plus compliqué.
Quand tu veux dire ça peut venir du banc, c'est vraiment du côté du terrain, quoi. Tu veux dire.
Quand je dis que ça peut venir du banc, ça peut venir du staff, des gens de Christophe Furios qui est au bord du terrain, d'un adjoint. Enfin bon, non, il faut que ça vienne du terrain et des leaders. Et je pense que la problématique de Clermont aujourd'hui, c'est aussi, enfin parmi les problématiques, il y en a plusieurs, mais il y a cette absence de joueurs. Être capable de remobiliser, on va pas refaire l'histoire, mais tous ces joueurs-là, ils ont existé à une période à l'ASM, ils sont tous partis ces dernières années, un peu avant. Et aujourd'hui, le club a un cruel défaut de ce genre d'éléments.
Alors, je peux vous dire que ça se bat pour prendre la parole et je vais trancher Fred.
Moi, je vais juste.
T'as déjà parlé, Arnaud, c'est pour ça.
J'ai juste complété ce que dit.
On est sympa avec toi, tu vois. Nous, on va compléter.
Je vais juste compléter ce que dit Christophe. Je suis d'accord. Je trouve que c'est une histoire de caractère. C'est un mot qu'on utilise souvent dans ce podcast. Il y a un réel manque de caractère dans l'effectif clermontois et un manque de niveau aussi, parce que l'un va souvent d'ailleurs avec l'autre. Des bons joueurs, c'est souvent aussi des joueurs de caractère.
Hein. Urios appelle ça la mentalité. C'est pareil.
Oui, complètement.
Ouais. C'est pas du mental, c'est de la mentalité.
Oui. Ouais. Et en fait,
avec le mental.
Où est-ce qu'on juge la qualité des joueurs, le caractère des joueurs? C'est sur les moments déterminants, c'est le money time. C'est, dans tous les sports, c'est comme ça. Et les deux dernières minutes dans un match de rugby, quand le score est serré, et c'est vrai que cette saison, l'ASM est dans une configuration où la plupart de ces matchs a été serré jusque dans les dernières minutes, beaucoup de matchs en tout cas. Alors, faut pas oublier aussi qu'il y a eu des victoires qui ont basculé du bon côté, des fins de match qui ont basculé du bon côté côté ASM. Hein, la victoire à Montpellier en était une, contre La Rochelle à domicile, contre le Racing aussi à domicile. Donc la pièce, elle est tombée d'un côté ou de l'autre. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que justement l'image de la pièce, je l'utilise à dessein, c'est qu'en fait, il n'y a pas de maîtrise. Il n'y a aucune maîtrise sur ces fins de match.
Comme quand on jette une pièce.
Exactement. Non, mais il y a une forme de voilà, on jette la pièce en l'air et on va voir de quel côté elle retombe. C'est-à-dire que l'équipe n'est pas en mesure, avec les joueurs qu'elle a aujourd'hui, de prendre les choses en main et de choisir quelque part sa destinée. Christophe parlait de mentalité, de caractère, de je sais pas si on peut dire de grognard, de joueurs capables de donner peut-être les bonnes consignes au bon moment sur les dernières minutes. Le match contre la fin de match contre Bordeaux, c'est sans doute le symbole ultime de ça. Là. Ne pas être capable de se dire l'UBB va faire un renvoi court puisque c'est la seule possibilité pour récupérer le ballon et donc pour pouvoir gagner le match. C'est incroyable et d'attendre de pas être positionné en conséquence, c'est une erreur d'un niveau qui est...
Comme par hasard, les deux derniers matchs, il manque un joueur qui peut avoir ce caractère et cette mentalité qui s'appelle Urda Pileta et qui était absent et contre Bordeaux et contre Paris. Et
ce manque de leader, de caractère, de mentalité, on le voit aussi dans la recherche du capitanat. Christophe Furios, j'ai l'impression qu'il a du mal à trouver vraiment le leader, le capitaine. Là, c'était Sébastien Bézi. Ouais. Alors qu'avant, c'était Étienne Falgoux. Mais Étienne Falgoux était sur le terrain aussi. Donc, il a changé de capitaine pour ce match-là. On peut se poser la question de...
On a eu Fritzli en challenge.
On a eu Fritzli. Simone est blessé. Il y a eu Jauneau en début de saison. Ouais, on a l'impression qu'il est en recherche donc de ce leader, de ce mec qui va rameuter ses coéquipiers et pour pas lâcher à la fin.
Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il trouvera même pas du pétrole en continuant de creuser comme ça. Hein,
c'est la conséquence. C'est la conséquence de l'absence de leaders et de joueurs qui sont.
Est-ce qu'il attendait que quelqu'un se révèle en quelque sorte?
Il y a un truc qui est terrible, qui a un aveu terrible dans le documentaire de Canal sur l'ASM, enfin sur Christophe Furios, c'est qu'il dit que contrairement à tous les autres clubs où il est passé, après ses Olympiades estivales, qui lui permet de dégager justement ses leaders, ses meneurs, là il était plus dans le flou après qu'avant, ce qui est quand même un constat qui est éclairant, si je peux dire.
Je veux rajouter un truc par rapport à ce que disait Alfred, cette mentalité de grognard, cette mentalité de lâche rien, c'est non seulement tenir un résultat du match, mais c'est aussi ne rien laisser à l'adversaire, ne pas leur laisser des points de bonus. On le sait, ce top 14, c'est ultra serré de la première même jusqu'aux dernières places. J'ai l'impression que c'est encore plus serré que les saisons précédentes. Donc, dans les dernières minutes, il ne faut absolument pas laisser de bonus, que ce soit offensif ou défensif, aux adversaires, parce que ça va jouer à la fin de saison. Tu parlais du Racing que l'ASM n'a pas perdu, mais l'ASM a donné le point du bonus défensif au Racing dans les dernières minutes. Et c'est super important, ça, de rien laisser aussi aux adversaires.
Ils sont mis un peu le feu, oui, c'est vrai que du coup tu te remets sous pression. Après, il y a des fautes techniques, des fautes de maîtrise, comme mes petits camarades ont parlé tout à l'heure là, sur les fins de match. Mais ça, je pense que ça vient aussi du manque de confiance qu'a cette équipe.
Oui. Ouais,
un joueur, même si ce n'est pas un top gun, il ne va peut-être pas faire ses erreurs s'il évolue dans une équipe qui est en pleine confiance, qui enchaîne des bons résultats, qui est capable de maîtriser les fins de match. Je pense que peut-être qu'il ne fait pas ces fautes-là.
Voilà. Et puis on contribue en parlant de ça, en mettant le doigt sur ces fins de match. Évidemment, les joueurs se disent les derniers matchs, on a foiré nos fins de match. Donc le ballon brûle les mains, on le sent à chaque fin de rencontre. Et franchement, je suis persuadé que les supporters clermontois, tous devant leur télé, 5 minutes à 2 minutes de la fin, tout le monde se dit
ça va commencer effectivement à devenir compliqué.
Ça va devenir compliqué.
C'est comme une équipe de foot qui perd tout le temps en pénalty.
Effectivement,
ça arrive aux équipes françaises. toutes les sélections françaises.
Est-ce que c'est aussi dû à la difficulté du coaching moderne? Quand je dis moderne, ça fait quand même quelques années, mais qui fait qu'on fait rentrer beaucoup de joueurs en fin de match. On change la moitié d'effectifs, en fait, dans une équipe.
Si t'as des bons joueurs de caractère, c'est pas un problème.
Après, moi, je vais prendre le truc à l'envers, et c'est une bonne remarque. C'est que le coaching, avec, comme tu dis, les règles modernes et tout, elle permet aussi de remettre les joueurs sur le terrain. Moi, je ne veux pas me mettre à la place d'Urios, mais sur une dernière mêlée à 2 minutes de la fin, je remets peut-être les mecs dont je sais qu'ils vont garantir la solidité du truc. Quoi.
Ouais.
J'aurais peut-être remis un Slimani à droite. Enfin, voilà, j'aurais peut-être fait... peut-être pas Fourcade parce qu'il venait de le sortir. Après, pourquoi Fourcade est sorti à 4 ou 5... Il sort à la 75e. C'est un coaching qui, devant ma télé, m'a un peu surpris. Alors, peut-être qu'il avait un pépin ou qu'il l'a senti au bout du rouleau. Mais Fourcade, qui tenait la baraque jusque-là, je l'aurais laissé sur le terrain, moi.
Est-ce qu'il y a d'autres arguments est-ce que vous pensez que Christopher Yoss, lui, peut avoir des arguments, encore des leviers, pour essayer de pallier cette situation, outre le fait de faire rentrer les joueurs?
Alors bon, on parle des causes de ces fins de match qui sont viandées, là, qui sont ratées, mais on peut aussi retourner voir le verre à moitié plein
ouais.
En disant que c'est plutôt encourageant et qu'il vaut mieux ça que d'aller se prendre des 40 ou des 35-0 et qu'en fait, il y a une marge qui n'est pas si importante que ça et que peut-être qu'à un moment, on en a parlé avant Bordeaux, du fameux déclic qui fera que cette équipe, la lumière va être un peu plus prégnante et qu'il y aura plus de confiance, plus de sérénité et qu'elle gérera mieux ses fins de match.
On peut se dire qu'elle est qu'à 2 minutes quand même d'être deuxième du classement. C'est quand même super.
C'est exactement ça. On peut lire la chose de cette façon. La SM n'est pas si loin que ça.
Parce que si on prend le.
C'est quasi philosophique.
Je vous demandais juste de changer de place et de vous asseoir dans la tribune de presse, mais côté Stade français. Si on regarde la prestation du Stade français et qu'on se dit qu'à la fin du match, bon, en effet, match nul, ouais. Je veux dire, quelqu'un qui viendrait à chroniquer ou à discuter de la prestation du Stade français, est-ce qu'il serait rassuré parce qu'il aurait vu
ils
l'ont dit, je crois, à la fin du match.
Il a dit que c'était un miracle.
C'était quasiment miraculeux, voilà, c'est ça. Alors par contre, pourtant,
c'est une équipe au classement qui est pas si mal que ça.
Mais c'est une équipe qui est un peu énigmatique pour moi, qui a des hauts, des bas, qui est bon, Morgan Parra que j'ai eu. Parler un peu de son équipe et tout, quand j'ai fait le papier dans la semaine, il dit, là aussi, on a un problème d'incarnation, de joueurs, d'état d'esprit. C'est pas qu'il est mauvais, mais ça manque un peu de leader, quoi.
Je rappelle, le Stade français est 3e avec 33 points.
Mais par contre, ils font des bons résultats. C'est pas ouais. Parce qu'ils ont de...
Tu parlais de la vision du Stade français. Rachid Ghezal a pas aimé la prestation. Karim Ghezal a parlé de la prestation de ses hommes en disant qu'il n'avait pas aimé ce qu'il avait vu, mais qu'ils avaient fait preuve d'un gros caractère pour revenir dans le match. C'est exactement l'inverse de ce qu'on dit sur l'ASM.
Moi, je serais l'ASM, je téléphonerais à Camille Lopez et demander la recette de l'aviron bayonnais, qui est le phénomène inverse.
Ouais.
Qui, cette équipe-là, a remporté, je crois, au moins deux, j'en vois deux dans la saison, qui ont renversé la table dans les 3 ou 4 dernières minutes pour gagner des matchs qui étaient mal embarqués.
Et alors, de votre point de vue, quand vous voyez ces matchs, c'est quoi ? C'est l'état d'esprit ?
Ah bah Bayonne, c'est clairement l'état d'esprit, surtout
ouais.
à domicile. Hein.
Ouais.
Là, il y a un truc, là, c'est, ils sont habités, quoi, les gars. Donc bon, ça vient de la mentalité, c'est ce que disait Fred, c'est ce qu'on a dit, c'est une histoire okay. de caractère.
Et tu parlais des outils pour l'entraîneur pour influer sur ses fins de match, à mon sens, il n'y en a quasiment pas. Le coaching peut en être un, mais c'est compliqué quand même à ce moment de la
ouais,
rencontre,
c'est pas, ouais.
très difficile.
Parce que dit Christophe, c'est pratique, s'il fait rentrer effectivement des cadres sur la mêlée, ça peut-être
ouais,
changer quelque chose.
Sur des cas particuliers. Hein,
ouais.
Voilà.
Oui, c'est particulier, parce
qu'il y a une mêlée capitale, si tu sais que tu as sorti ton pilier qui est le meilleur, enfin ton droit ouais. qui tient la baraque, parce qu'il y a un moment il faut faire du coaching, si tu sens que, puis on le voit tous les week-ends, hein, qu'il y a des joueurs qui reviennent sur le terrain pas je sur des problèmes de...
Ouais, je vois beaucoup de gens tomber sur Lorient sur ces fins de match mal gérées, honnêtement, pour moi les fins de match justement, qui plus est sur les deux dernières minutes, c'est le moment des joueurs, c'est précisément le moment des joueurs.
L'entraîneur il est pas pour grand chose. Hein,
il peut pas changer grand chose effectivement. Non, ouais. Ok, bon on a fait le tour, merci messieurs. On va passer au top et au flop. Arnaud, c'est un top ou un flop toi ?
Bah, ça va être un top. Ça va être un top pour la Yellow Army. Donc j'étais à Jean-Bouin ce week-end à Paris. Et en fait, dès le début de match, avant l'arrivée des joueurs, 1h30 avant le coup d'envoi, donc ils étaient là pour attendre le bus des joueurs clermontois. Et puis dans le stade, on a entendu que. Et c'est quand même dingue pour ce club qui a des résultats en dents de scie, qui ça fait plusieurs saisons que c'est dans le creux de la vague, et les supporters sont toujours là, toujours bienveillants, toujours. C'est peut-être aussi un problème, hein, il y aurait un peu plus de pression sur le club et les joueurs, ça pourrait avoir un aspect un peu positif, mais ils sont toujours là, toujours bienveillants. Et puis à Jean-Bouin, alors on va pas dire que les supporters parisiens, le public parisien est le plus virulent du top 14, mais franchement, on a entendu que le public auvergnat parmi les 12 700 et quelques supporters dans le stade Jean-Bouin.
Donc c'est un mauvais résultat, c'est un match nul à domicile qu'a fait la
c'est ça. C'est ça. Moi, j'étais pas à Jean-Bouin, j'étais derrière mon écran et j'ai entendu des ici Montferrand, ouais. là où on aurait
tout
pu penser entendre.
Ouais.
Ici, c'est pareil. Christophe, top ou flop ?
À moi, mon flop du week-end, c'est la doudoune qui a pris le loup à Toulouse, ouais. 45-0. Là, ça fait un peu tâche quand même. Et puis, c'est surtout que ça confirme que cette équipe elle a un réel souci loin de ses bases. Hein. Et ça commence à sentir un peu, pas le roussi, on n'en est encore qu'à la 12e journée, mais c'est un club qui est... Bah, qui est avant-dernier, je crois. Qui est
avant-dernier, avec 20 points. Avec... À égalité avec Oyonnax et un point derrière Perpignan.
Et 4 points devant Montpellier, dont on peut penser qu'ils vont peut-être à un moment remonter.
Et à 4 points de l'aviron. Bref, ces dernières places restent quand même... tout reste très serré. Hein.
Ah, mais c'est très, très serré. Donc, bah, oui, c'est Lyonnais, c'est curieux. Quoi. C'est une équipe qui est vraiment en dents de scie et à l'extérieur, on n'y arrive pas du tout. Prend des grosses roustes. Parce que c'est pas la première à l'extérieur, même en début de saison, là, dans la première partie, ils prenaient cher. Et alors qu'il y a un effectif qui est plutôt conséquent, il y a des internationaux.
Ils ont pris 35-14 au stade Rochelet, par exemple.
Voilà.
Et effectivement, 36-31.
Ah, 36-31 encore, bon, ça peut être.
Et en plus, c'est à Toulouse. 40-10 à Pau.
Oui, à Pau, ils avaient pris cher. Ouais. Donc c'est une équipe qui voyage très mal, alors qu'il y a un effectif qui me paraît sur le papier au-delà de la 13e place. Quoi.
Et récemment, 38-20 à Oyonnax.
Et ils ont perdu, ils ont pris quasiment 20 points à Oyonnax chez le voisin. Donc voilà, c'est mon flop du week-end. Et ça, voilà, je crois que ce week-end, ils reçoivent je ne sais plus qui. J'avais en tête, mais ça m'est...
Champions. Je vais te retrouver, ouais.
Non, je veux dire la dernière journée de top 14. La dernière, fin janvier, la dernière journée des matchs allés avant d'attaquer la phase retour au Michelin.
Ils vont recevoir Perpignan.
Voilà, donc j'avais vu que c'était un match qui était dans leur corde, mais par contre, ils ont besoin de points maintenant à l'extérieur et leur première occasion, ça sera au Michelin. Donc ça peut faire un match sympathique.
C'est vrai, ça sera le match suivant le 3 février.
C'est bien teasé, en tout cas.
À toi, Fred.
La transition est toute trouvée, parce que je voulais mettre en avant le travail réalisé par quelqu'un que beaucoup ont égratigné, nous les premiers ici dans ce podcast, c'est Franck Azéma, parfois pour de bonnes raisons, mais il faut reconnaître quand même qu'il est en train de se passer quelque chose, je trouve à Perpignan, avec un effectif qui est... peut-être le plus faible du top 14 ou pas loin.
11e avec 21 points.
Voilà, et il se passe quelque chose, 3e victoire consécutive.
C'était très mal parti. Hein.
C'était très très mal parti, je pense que tout le monde les voyait dans la charrette, surtout avec après le bon début de saison d'Oyonnax, qui était aussi peut-être le candidat désigné pour descendre, donc tout le monde les voyait dans la charrette, et puis le fait est que ça commence à prendre, avec des joueurs qui sont en train de se relancer, alors des noms qu'on connaît bien ici en Auvergne, on a vu Van Tonder marquer ce week-end, Véré Damou également, marqué ce week-end, McIntyre qui est à la manœuvre, donc voilà, je trouve pas l'effectif incroyable, mais le fait est que de battre Bayonne à domicile, d'aller gagner à Castres, de confirmer contre Oyonnax, 3 victoires consécutives, je trouve que ça commence à parler et je trouve que c'est remarquable.
En début de saison, ils ont eu des difficultés parce que ils avaient pas mal d'internationaux retenus à la Coupe du Monde. Je crois que des équipes qui jouait le
bas de tableau, ouais.
Perpignan était l'équipe qui était la plus pénalisée par la Coupe du Monde. Je crois qu'ils avaient 7 ou 8 joueurs retenus par la Coupe du Monde. Donc effectivement, ça a pu les pénaliser en début d'exercice.
Messieurs, juste pour terminer ce podcast, qu'est-ce qu'on peut attendre des deux prochaines rencontres? Il y a réception des Scarlets et déplacement au Black Lion.
Ah bah, de rester après la 78e minute, de ne pas éteindre la télé déjà. C'est important.
c'est ce qu'on peut attendre de nous,
clairement, visant la qualification, ça passera
c'est deux
par
victoires, ouais.
Alors la qualification va se jouer avec une seule victoire, il faut être clair, avec 4 qualifiés sur 6. Par contre,
un match sur 2 et c'est bon.
Je pense que eux ils visent les 2 sur 2, avec un maximum de points pour sortir dans les 2 premiers qui leur assurent 8e écart à la maison.
Exactement. Il a tout dit.
Le classement, c'est Gloucester avec 8 points et premier, Black Lion, Castres, ASM et Edimbourg avec 5 points. Et Scarlett, ce que l'ASM reçoit, en 0 points pour l'instant.
Scarlett, qui a une équipe qui est un peu curieuse, même dans leur championnat, enfin leur Ligue Celt améliorée sur Sud-Africaine, ils sont 14e sur 16.
Ils sont 13e, pardon.
Avec le retour de Jonathan Davis.
Ils sont 13e égalité, effectivement, avec Zèbre, 14e.
C'est pas flambant.
Sur 16, non, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible.
Ils en sont à 2 victoires.
Qui ont perdu contre les Géorgiens, qui ont perdu à domicile sur leur terrain. Ouais. Contre les Géorgiens des.
Ils ont joué 11 matchs cette saison, ils en ont gagné que 2, les Scarlets.
Tu viens absolument de vendre toutes les dernières places restantes au stade. Ah bah tout le monde s'est rué sur ses places.
J'espère pour
tu touches une com.
Parfait, on va avoir du spectacle donc ce week-end, on espère du côté de Clermont.
Ouais, donc victoire bonifiée, ça serait pas mal.
Ok, c'est ce qu'on peut attendre en tout cas de cette prochaine rencontre. Merci messieurs, on se retrouve
avec plaisir.
Et on continue à suivre bien sûr jour après jour l'actualité de SM Clermont. Ciao.
Ciao.
Salut.